et les midis se remettent en route. Tout à l'heure, je recevrai le metteur en scène Philippe Ken, mais tout de suite, je reçois Marie Sorbier. Bonjour pour le Point Culture.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Se tenait ce week-end un événement unique au monde, les Assises de la traduction littéraire. Pour cette 42e édition qui prenait place comme chaque année à Arles, traducteurs de tous les pays, étudiants et publics sont venus nombreux assister à des rencontres autour du thème « Traduire sous contrainte ». Parmi les invités, Arezou Dadvar, traductrice du persan, et son éditeur Tinouche Namjou. Ensemble, ils ont décidé, malgré les risques encourus, de traduire et d'éditer King Kong Theory de Virginie Despentes. Le livre sort en persan dans quelques jours.
Bonjour, je m'appelle Arezou Dadvar, je suis postdoctorante en traductologie au CNRS. Et je suis traductrice aussi en persan et on va parler aujourd'hui d'une de mes traductions.
Je suis Tinouche Namjou, je suis éditeur, traducteur et metteur en scène.
Et libraire à Paris.
Et libraire aussi à Paris, voilà.
On est ici à Arles pour ces 42e assises de la traduction. Vous allez intervenir dans le cadre de ces assises parce que vous avez décidé de traduire King Kong Theory de Virginie Despentes en persan. Pourquoi ce choix de livre ?
Alors, j'ai rencontré, on va dire, ce texte en 2015 et j'ai décidé de le traduire parce que je n'avais jamais lu un texte dans un langage pareil, sur des sujets aussi importants et aussi présents dans la société iranienne. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, personne jusque-là ne s'est intéressé à ce texte. Je vais le traduire et je savais que la publication allait être très compliquée. Mais heureusement, j'ai réussi à finalement trouver un moyen chez cet éditeur, donc à Paris, pour diffuser enfin ce texte.
À Paris, parce que vous avez essayé avant de l'éditer en Iran et ça n'a pas été possible?
Oui, j'ai essayé, j'ai contacté plusieurs maisons d'édition, non pas par les voies officielles, bien sûr, parce que je ne savais pas qui allait ouvrir en fait ce fichier que j'envoyais à mon nom. Et je connaissais les dangers que je pouvais avoir et les conséquences. Et donc tous les éditeurs ont refusé. Il y en a un seul qui m'a contacté et qui m'a demandé s'il s'agissait d'une blague. Je lui ai dit que non, que j'étais sérieuse. Et du coup, il m'a demandé une version remaniée de cette traduction.
C'est-à-dire une version amoindrie ?
Une version censurée, voilà, pour mettre les mots comme il faut. Et donc, chose que j'ai acceptée, même si je savais que le texte, même la version censurée, ne pouvait pas être publiée, parce que je ne pouvais que censurer les mots, mais les sujets, la prostitution, le viol, le porno, existaient toujours dans le texte. Donc c'était pour moi plutôt un test pour voir jusqu'où un texte remanié ou censuré sur ces sujets-là pouvait avancer, et finalement... je n'ai pas avancé plus que ça parce que le texte a été refusé par le dernier éditeur. Et donc c'est là où j'ai décidé de trouver d'autres moyens, voilà, pour publication de ce texte.
On le sait, le texte de Virginie Despentes, c'est un texte qui tourne beaucoup autour de la sexualité avec des mots très crus, des mots très gras. Est-ce que ces mots-là existent en persan ?
Ces mots-là existent en persan, on les entend dans les conversations privées, mais aussi derrière les feux rouges, très souvent. Donc oui, ces équivalents exacts existent en persan, ils sont employés, mais on n'a pas l'habitude de les lire dans les livres, on n'a pas l'habitude de les traduire. Donc ils ne sont pas intraduisibles, c'est seulement qu'on n'a pas l'habitude de les traduire, voilà.
Alors pourquoi avez-vous accepté de traduire ce texte-là, qui, on l'a entendu, est difficile, voire dangereux à traduire aujourd'hui en persan ?
Parce que c'est la base de mon métier, c'est-à-dire que je suis retourné en France après une dizaine d'années où j'ai travaillé en Iran, où la censure était de pire en pire. Et puis un jour, j'ai décidé de revenir ici et avec les nouveaux moyens, je savais qu'on pouvait publier, on pouvait s'exiler pour publier ailleurs, mais avec les livres électroniques, on pouvait redistribuer ensuite les livres à l'intérieur de l'Iran. Donc, je suis venu en France, j'ai construit la maison d'édition, donc Narcoja, en France, et on a demandé à tous les écrivains, tous les traducteurs qui justement, dont justement leur manuscrit était censuré en Iran, de nous envoyer les manuscrits et qu'on puisse justement publier des livres qui ne pouvaient pas avoir de place en Iran.
Aujourd'hui, ce livre existe, King Kong Theory de Virginie Despentes en persan. Est-ce qu'il est présent en Iran, concrètement, le livre en lui-même?
Alors, le livre a été traduit, il est prêt. On attend, en fait, il n'est pas encore publié, donc il va être publié. Et quand il sera publié, ce qui se passe, c'est que déjà, il y a un marché noir en Iran de livres. Donc, dès que nous publions un livre à l'extérieur, à peu près 2 ou 3 mois après, vous avez ces livres-là qui passent dans le marché noir sous le manteau. Vous le trouvez au bord des rues, à côté des librairies officielles. Donc voilà, ça va très vite passer en Iran. Effectivement, les gens vont pouvoir le lire, mais également, donc, par notre moyen, par le livre électronique, il va y avoir un autre canal de diffusion.
Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent le persan en dehors de l'Iran ? Par exemple, en France, vous êtes basé dans le 15e, à côté de Beaugrenelle, qui est un quartier très iranien.
Oui, tout à fait. Alors, il y a la communauté iranienne qui est importante en France, où il y a beaucoup de lecteurs, effectivement. Mais nous, comme on est à l'extérieur de l'Iran, notre but, c'est pas seulement, en fait, de viser le public iranien ou persanophone, disons, puisqu'il y a également les Afghans qui lisent en persan, il y a d'autres pays. Il y a à peu près 20 millions de persanophones à l'extérieur de l'Iran et de l'Afghanistan. Donc ces personnes-là sont partout, un peu au Canada, beaucoup aux États-Unis, Europe du Nord et également en Australie. Et donc ils lisent énormément, effectivement. Et eux, ils ont le moyen de lire les livres en papier, puisqu'on les publie en papier, mais ceux qui sont à l'extérieur de l'Iran ou de l'Afghanistan, comme je l'ai dit, avec le livre électronique, ou même très souvent avec le livre audio, ça passe très très vite, c'est mis sur YouTube, ils peuvent entendre le livre ou bien le lire.
Le thème de ces 42e assises de la traduction, c'était traduire sous contrainte. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous choisissez de traduire Virginie Despentes, de faire un acte de résistance ?
Oui, je pense, en tout cas, c'était... Mon but aussi, depuis le départ, d'apporter un peu de diversité face à ce discours unifié, homogénéisé dans les traductions, mais aussi dans la littérature en langue persane. Et donc, apporter cette diversité de discours, voilà, je pense que c'est quand même un acte, c'est un engagement en tout cas de ma part. Après, je ne sais pas à quel point il sera reçu.
Mais vous pensez qu'il y a un lectorat pour ça ?
J'espère. Même s'il y a 5 personnes qui liront ce texte, pour moi, je serai contente.
Quel est le prochain texte sur lequel vous travaillez ?
Alors, j'ai un projet de traduction d'un texte d'Annie Ernaux, donc L'événement, que j'aimerais traduire, toujours en tout cas sur le thème des femmes. Voilà.
Merci beaucoup, merci à tous les deux.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie-Franck Bondou vient d'être reconduit à la tête du festival de bande dessinée d'Angoulême.
Oui, et cette décision annoncée ce week-end par l'association du festival est une véritable onde de choc pour le monde de la bande dessinée, tant les critiques sont nombreuses et unanimes à l'encontre de Franck Bondou. Sa société 9e Art Plus vient néanmoins d'être reconduite pour 10 ans, alors que de nombreux éditeurs et auteurs, parmi lesquels Anouk Ricard, le Grand Prix 2025, ont annoncé qu'ils ne se rendraient pas à Angoulême cette année pour protester contre son maintien à la tête du festival. Seul changement en perspective pour tenter d'apaiser ces tensions, la promesse que 9e Art Plus devra travailler en binôme avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image.
Et pour finir, Marie, les lauréats du prix Wepler Fondation La Poste ont été dévoilés ce matin.
Oui, et c'est l'auteur suisse Bernard Bourritte qui le remporte pour son premier roman « Détruire tout » paru aux éditions Inculte, dans lequel il décortique les mécanismes d'un féminicide en Suisse dans les années 60. Il succède ainsi à Thomas Clerc, lauréat 2024, pour son ouvrage « Paris, musée du 21e siècle, le 18e arrondissement ». Le jury a décerné sa mention spéciale à l'écrivaine Hélène Lorrain pour son livre « Tambora » publié aux éditions Verdier, qui explore la question de la maternité. Créé en 1998, le prix Wepler Fondation La Poste offre une dotation de 10 000 euros et de 3 000 euros aux lauréats. Il distingue chaque année 2 écrivains s'étant démarqués par leur style et une certaine prise de risque romanesque.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain, d'ici là et en même temps tout de suite, il est 13h et vous écoutez France Culture.